Vous êtes sur RTL.
C'est à suivre cette semaine.
Ah, ça aussi, ce sera à suivre cette semaine. Le 2 décembre, la sortie mondiale hein, du livre du pape François, Un temps pour changer. Bonsoir Caroline Pigozzi.
Bonsoir.
Alors, on vous présente plus journaliste, spécialiste de l'actualité vaticane et papale depuis des années. D'ailleurs, vous publiez François en poche. C'est un recueil de pensées du pape François. Vous avez d'ailleurs sélectionné et classé sous forme d'abécédaire. Mais c'est son livre à lui hein, dont on va parler ce soir. Un temps pour changer. Bon, tout d'abord, un mot du titre. C'est le titre français, c'est une traduction du titre international, Un temps pour changer.
C'est une désolante traduction parce que c'était Let us dream, rêvons, ce qui était beaucoup mieux parce qu'en fait, dans ce cas-là, ça fait rêver et ça fait espérer si on a un titre positif, tandis que là, Un temps pour changer, c'est morne, c'est triste, c'est pas amusant du tout. Ça, alors, moi, j'en veux un peu.
En même temps, il y a cette notion de changement qui va bien peut-être à ce pape que l'on dit réformateur.
Oui, mais enfin, on sait bien qu'un pape, c'est sérieux. De toute façon, quand il parle, c'est pas pour dire des choses. Donc, de toute façon, même si c'était Let us dream, ça faisait rêver. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose de positif et de sympathique. On sait que ce pape, il est pragmatique, toujours. Il dit donc des choses qu'on comprend. C'est pas un pape conceptuel. Il est pas si intellectuel que ça. Mais il faut se souvenir d'une chose qui est quand même toujours impressionnante. C'est que un pape jésuite, c'est le premier de l'histoire. Les jésuites, ils font vœu d'obéir au pape. Toujours. Ils font le quatrième vœu. Donc le pape, c'est compliqué d'être dans sa tête.
Oui, c'est ça. Effectivement, il y a presque un conflit d'intérêts. Juste avant de rentrer dans le livre, un mot quand même, pour savoir, parce que c'est vrai que je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait, le pape, de l'argent généré par les ventes de ses livres?
D'abord, il a un compte personnel, le pape.
Ça va sur son compte?
Ça va en partie sur... Enfin, ça va sur la Librerie Editrice Vaticana, c'est-à-dire la librairie qui gère les droits internationaux, étrangers. Ouais. Ça, c'est le Vatican. Et après ça, il y a le compte du pape. Et pour ce qui est de son compte, il est très précis sur ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Généralement, évidemment, c'est pour aider des œuvres, mais des œuvres qu'il choisit, pas n'importe lesquelles, et il suit ça de très près. D'ailleurs, moi, quand je lui avais donné de l'argent de Paris Match, parce qu'on avait fait des photos qui ont été vendues assez chères après l'interview, je lui ai dit, très sympère, le chèque, on le fait à quel nom? Il dit, à mon nom, parce que je veux contrôler, je ne voudrais surtout pas qu'on parte en vacances avec ce chèque.
Alors, d'abord, pourquoi il publie ce livre, le pape? Quel message il veut faire passer?
Bon, je crois que comme tout le monde, le Covid, ça a été une chose qui l'a troublé, parce qu'un pape, c'est fait pour voir des gens, pour être place Saint-Pierre, c'est fait pour rayonner. En plus, c'est un pape quand même assez populiste, et finalement, il s'est trouvé face à lui-même, et il a eu son Covid intérieur. Et comme il est, en plus, comme je l'ai dit, un homme extrêmement pragmatique, c'était l'occasion de marteler, de passer un message. Dès qu'il peut, il passe un message. Les messages, il les passait d'habitude le mercredi, sur la place Saint-Pierre. Tandis que là, il a quand même été frustré. Et donc, il s'est dit bon, ben voilà. Et puis en plus, comme vous pouvez imaginer, on lui propose tout le temps des livres. Il est extrêmement sollicité. Le problème, c'est les livres qui ne va pas accepter, parce qu'en fait il n'a pas vraiment le temps de les écrire, donc on vient l'interviewer et après ça les journalistes font leur miel de ce que le pape a dit, mais c'est plutôt la sélection dans l'autre sens, qu'est-ce qu'il va accepter, qu'est-ce qu'il va refuser.
Donc il parle énormément de cette crise sanitaire Covid-19 et il propose des changements pour réduire les inégalités créées par cette crise. On a beaucoup dit, par exemple, qu'il faisait la promotion du revenu universel. Est-ce qu'il fait de la politique, François?
Il fait toujours de la politique. Vous savez, un jésuite, ça fait toujours de la politique. mais évidemment. Mais surtout... on voit qu'il gouverne, c'est toujours très social. Ses messages sont en fait très sociaux. Et c'est très social, et ce qu'il fait, c'est pour la plus... Bon, les jésuites disent pour la plus grande gloire de Dieu. Et là, la plus grande gloire de Dieu, elle passe, évidemment, par le social. Mais il parle aussi de déracinement, il parle de la solitude, il parle de son propre confinement, parce que ce qui est le plus intéressant dans ce livre, c'est toujours la même histoire, c'est quand il raconte sa propre histoire.
Ouais.
Et il parle de son confinement quand lui a été malade, quand il avait 20 ans.
Quand il était jeune.
Premier confinement. après ça, comme il a quand même, c'est un homme de caractère, quand il était le, finalement le provincial des jésuites d'Argentine, il a eu quelques problèmes aussi, parce que c'était un peu autoritaire, on l'a vu d'ailleurs par la suite. Et là, il a été confiné parce qu'on l'a un peu sorti du système. Il parle de son deuxième confinement. Donc ça, c'est le troisième. Et il est, moi j'ai trouvé qu'il était très malheureux parce qu'il est viscéralement fait pour un pape. C'est banal de dire qu'un pape est solitaire, mais c'est pas fait pour être solitaire un pape, parce que quand on arrive là, évidemment on veut non seulement ratisser large, mais lui, il veut séduire les autres religions aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se fait...
Ouais, et il en a souffert de ce confinement, de ne pas pouvoir s'adresser à la foule, à la... de son balcon de la place Saint-Pierre.
Évidemment, il en a souffert en plus. Si vous voulez, c'est un pape extrêmement tactile. Ouais. Vous le voyez, ce n'était pas le cas du pape Benoît XVI, qui était toujours dans la
retenue.
Dans
une certaine...
Et qui, quand on allait le voir, et quand on était une femme notamment, et qu'on lui parlait, il ne regardait jamais droit dans les yeux, il regardait ses pieds, ce qui était extrêmement déstabilisant. Tandis que ce pape, il est argentin, il embrasse, il donne des accolades, il est très physique. Donc là, il est tout à fait statufié, et c'est pas agréable pour lui, c'est sûrement pas facile. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est intéressante, c'est que c'est quelqu'un de complètement transparent. C'est-à-dire que son âme, c'est son visage. Vous voyez quand il fait la gueule. C'est très pratique pour les gens qui travaillent avec lui, parce qu'il y a des jours où il a les lèvres serrées et on le voit tout de suite. Donc, on ne lui pose pas de questions.
Vous parliez du rapport aux femmes, hein, en tout cas de François et de son prédécesseur, mais sur la place des femmes dans l'Église, ou encore récemment sur les homosexuels et l'union civile, il a eu des propos qui ont été remarqués ces dernières semaines. Est-ce que ce qui peut apparaître comme une ouverture, ça se retrouve dans ce livre ?
Oui, c'est-à-dire qu'il donne des explications à cette ouverture. Il se justifie sur bien des sujets, mais il faut savoir qu'il martèle toujours les mêmes idées. Il est toujours et à la fois sur le social et il est toujours aux confins. Je veux dire, il est toujours à la marge d'eux. D'ailleurs, il vient de créer 4 cardinaux qui n'auraient jamais été créés auparavant. Ça s'est passé aujourd'hui. Et c'était des cardinaux des pays lointains, d'Océanie. Et donc, il est toujours à la périphérie. Et on le sent très, très bien dans ce livre parce qu'il parle d'ailleurs... Il y a un moment qui est très intéressant quand il parle de la parricide. C'est en fait au moment où c'est là que finalement, c'est de là qu'est partie peut-être l'envie de devenir pape, ou en tout cas, ça s'est entré dans sa tête. Et il n'y a rien de nouveau, sauf qu'il l'explique, il martèle et il justifie très bien. Il se fait l'avocat de ses pensées, il a une occasion de le faire. Ce livre est divisé en 3 étapes, ça s'appelle « Un temps pour voir », « Un temps pour choisir », « Un temps pour agir ».
Bien, merci beaucoup Caroline Pigozzi. J'appelle le titre de votre dernier livre, c'est « François en poche, les pensées du pape » aux éditions du Cherche Midi. Au passage d'ailleurs...
Préfacé par le pape.
Oui, bah, évidemment.
À la main, il a écrit le texte.
Préfacé par le pape et puis... Est-ce que je traduis un grand secret quand je dis qu'il y a des relations épistolaires entre vous et le pape François?
Manuscrite.
Voilà, exactement. Au passage, un coup de chapeau pour l'interview que vous publiez dans Match, du dernier compagnon de la Libération après la mort de Daniel Cordier. Ce qui m'amène d'ailleurs à souligner aussi votre livre sur les photos insolites de Charles de Gaulle. Le général de Gaulle qui avait des relations avec les papes. Hein.
Ah oui, il était très croyant. Il allait voir des papes, il les aimait. Oui, c'est une chose importante. La religion catholique était un sujet sérieux. C'était plus facile avec lui, je pense, qu'aujourd'hui. Il n'aurait peut-être pas permis qu'il y ait uniquement 30 personnes dans les églises à la fois. Il n'y aurait pas eu de recours du Conseil d'État.
Merci beaucoup. Un temps pour changer. C'est le livre du pape François qui sortira donc le 2 décembre. Merci beaucoup. Dans un instant, on allume l'autoradio et on va se demander si les hybrides rechargeables sont vraiment verts. À tout de suite.